Évangile de Matthieu, chapitre 22 et verset 1. Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux invités « J'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. » Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Cet homme, il lui adressa cette parole, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. » J'aimerais vous raconter une autre histoire véridique qui est arrivée à une grande cantatrice soprano il y a un peu plus de 20 ans, qui raconte elle-même cette histoire qui lui est arrivée. Elle s'appelle Ruth Anna Metzger, c'est une chanteuse soprano professionnelle, et il y a une vingtaine d'années, on lui a demandé de venir chanter au mariage d'un homme très riche de Seattle. C'était le mariage de l'année à Seattle, il y a à peu près 22 ans. Elle devait intervenir pendant la célébration et elle avait été invitée ensuite à participer au repas de noces qui se suivrait au dernier étage de la tour et du gratte-ciel le plus élevé de Seattle avec une multitude d'invités tous plus prestigieux les uns que les autres. Et selon les indications du carton d'invitation, la réception aurait lieu sur les deux derniers étages de la tour Seattle's Columbia. C'était à l'époque la tour la plus élevée de l'hémisphère nord. C'est vous dire. À la réception, quand on arrivait, des serveurs leur offrirent des hors d'œuvre magnifiques, des boissons exotiques. Ils s'approchèrent à la suite du couple nuptial d'un maître d'hôtel qui, derrière un grand livre, accueillait les invités. « Puis-je avoir vos noms, s'il vous plaît ?»« Je suis Ruth Anna Metzger et voici mon mari, Roy. » Le maître d'hôtel rechercha les noms indiqués. « Je ne trouve pas vos noms. » Pourriez-vous me les épeler, s'il vous plaît ? Ruth Anna épela son nom lentement. Le maître d'hôtel rechercha à nouveau et finit par lever les yeux du livre. Je suis désolé, mais vos noms ne sont pas inscrits ici. Il doit y avoir une erreur, dit Ruth Anna. Je suis la chanteuse, j'ai chanté pour le mariage. Le serveur, très gentleman, répondit : Qui vous êtes ? Et ce que vous faites n'a aucune importance. Sans vos noms inscrits dans le livre, je ne peux pas vous laisser entrer. Il appela un garçon et lui dit, « S'il vous plaît, montrez l'ascenseur de service à ces personnes, s'il vous plaît, et puis conduisez-les. » Et les Metzger suivirent le garçon d'étage et ils passèrent en allant vers l'ascenseur de service devant les tables décorées avec art. Près des tables, les membres de l'orchestre commençaient à s'installer en costume et en livrée d'apparat pour se préparer à jouer. Et le garçon d'étage laissa Ruthanna et Roy, son mari, monter dans la cabine de l'ascenseur et il pressa le bouton sur le bouton G. Garage. Alors, ils ont repéré leur voiture, ils se sont éloignés en voiture. Et ils étaient dans le silence en repartant parce que c'était une forte déception. Ils devaient assister au plus beau mariage de l'année dans le cadre le plus prestigieux de la ville. Et à un moment donné, Roy, le mari de Ruthanna Metzger, a posé sa main sur le bras de son épouse et lui a demandé « Mais chérie, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Écoute, quand l'invitation est arrivée, j'étais très occupé et je n'ai pas pris la peine de répondre à RSVP qui était marqué en bas. Répondre, s'il vous plaît, à cette invitation. Je savais que j'étais la chanteuse du mariage. J'étais certaine de pouvoir aller à la réception sans avoir à répondre. Et ils ont manqué cette invitation. Cette parabole de la noce dont il est question dans l'évangile de Matthieu ressemble à cette invitation manquée. Répondre, s'il vous plaît. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible dans son ensemble, l'invitation aux noces, le festin des noces, est quelque chose qui est souvent utilisé comme une image de l'invitation faite par Dieu à son peuple. À Israël, dans l'Ancien Testament, le festin des noces, le festin messianique, est quelque chose de très présent. On le retrouve beaucoup dans le livre d'Ésaïe, par exemple. Le mariage, c'est une image, un symbole de l'union de Dieu avec son peuple, l'épouse. Et il est logique que cette image de Dieu et de son épouse se poursuive autour du festin des noces. C'est quelque chose qui n'est plus aujourd'hui très évoqué, un peu comme le retour de Christ, du Messie. Mais dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, et Jésus lui-même parle de ce festin auquel participeront tous ceux qui ont répondu à l'invitation. RSVP. Répondez, s'il vous plaît. Dans l'Ancien Testament, la notion de bénédiction messianique est très présente. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « L'Éternel des armées, au chapitre 25, versets 6 à 9, prépare à tous les peuples sur cette montagne de Sion un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Un festin auquel nous sommes invités, où le peuple de Dieu, Israël dans un premier temps, mais aussi nous, puisque tous les peuples sont invités dans ce passage d'Ésaïe. C'est donc un festin messianique auquel nous sommes appelés à répondre. La montagne de Sion, là où Jérusalem a été bâtie, Dieu convie tous les peuples à participer à ce festin qui inaugure les temps messianiques pendant lesquels la mort disparaîtra. Dieu consolera tous les peuples qui pourront se réjouir du salut offert par Dieu. Une invitation à un festin. Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, il est parlé de noces où un roi prépare le festin pour les noces de son fils. Avez-vous déjà été invité à un tel festin? Avez-vous reçu une invitation de cette nature? Je suis vieux et je rabâche, mais il y a un épisode que j'ai beaucoup aimé vivre avec ma fille Maëlys. C'était en 2004. Un soir, en rentrant du travail, le vendredi, je lui ai dit, écoute, est-ce que ça te dirait de venir à un concert à Guidel, concert de musique classique? Elle me dit, ah ouais, ça me plairait bien. Alors elle se prépare, elle monte dans la voiture, et je lui avais dit, tu sais, j'ai deux invitations. Et dans la voiture, avant qu'on parte, elle me dit, mais au fait, qui est-ce qui t'a invité? Puis moi, je sors de ma poche deux billets où il était écrit, la princesse de Polignac a l'honneur de vous inviter au concert de musique classique qui aura lieu en l'église de Guidel à telle heure. Et puis ma fille regardait le carton d'invitation, ça a fait un effet. Je suis devenu tout à coup dans son estime. Voilà, quand même son papa est invité par une princesse. Bon, j'ai pas osé lui dire qu'on avait très peu bavardé entre elle, princesse, et moi-même, que j'étais sur la liste des notables de Guidel à cause de mon travail. Mais elle a dit, mais c'est la princesse qui t'a invité. Je dis, oui, bien sûr, ouais, bah, tu vois bien, c'est écrit. Hein? Et alors, elle était impressionnée parce que quand on est arrivé, j'étais invité par la princesse, elle m'accompagnait, et arrivé à l'église de Guidel, on avait notre entrée personnel, on ne passait pas par la grande porte, mais les invités choisis, invités, étaient pris par la porte sur le côté, conduits jusqu'à leur place, privilégiés, devant, idéal. On était juste dans le rang derrière la princesse et son fils, le prince de Polignac. Ça a fait de l'effet. Je n'ai pas refusé l'invitation. Est-ce que nous sommes conscient de l'invitation qui nous est faite par Dieu, de participer au festin? Oh, c'est une espérance, c'est une attente. J'entends, Seigneur, reviens bientôt. Mais revenir, pourquoi? Qu'est-ce qui nous attend? Mais il y a une invitation, cette invitation à participer au festin des noces du Fils, la rencontre de Christ avec son Église, avec son peuple. Le repas que nous prenons dimanche après dimanche n'est qu'une légère image au regard de cette invitation qui sera celle qui s'adresse à tout le peuple de Dieu. Est-ce que vous en avez conscience? Est-ce qu'on parle de ce temps de rencontre, de ce festin? Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. C'est très paradoxal, venez acheter sans argent et sans rien payer. Cela parle de la grâce. Cette grâce qui est adressée à chacun des enfants de Dieu en Jésus-Christ. Venez, tout est réglé dans un tout petit mot, Christ sur la croix a dit, tout est accompli, tout est payé. Maintenant, tu peux puiser à pleine main dans les richesses de la grâce de Dieu pour ta vie, pour toi. Tu es invité. Est-ce que tu as faim et soif? C'est une vraie question. Et certainement que c'est une question qui est adressée à tous les enfants de Dieu sur cette terre, mais que les hommes et les femmes des sociétés confortables ont peut-être plus de mal à répondre en disant « oui, j'ai faim et soif ». On a tellement de propositions qui nous sont faites par le monde, et derrière le monde, il y a l'adversaire, pour nous faire dire que finalement, notre faim et notre soif peuvent s'assouvir, par la consommation, les attentes que nous avons dans ce monde, et que notre faim et soif de Dieu, finalement, passe derrière. Je vais aller labourer mon champ avec mon bœuf. Il faut que je l'essaye. Il faut que j'aille à la FNAC, sortir le dernier logiciel qui correspond à mes besoins. Est-ce que nous avons faim et soif? La question est peut-être là, pour l'Église d'aujourd'hui. Il y a 40 ans, on disait, l'évangélisation s'accomplira par l'Afrique pour l'Europe. Parce que les Européens et l'Église de Christ n'ont plus vraiment faim de Dieu, soif de Dieu. Alors que ceux qui ont une faim, une soif physique, savent aussi avoir une faim, une soif spirituelle. Comment entendons-nous cette invitation ? Cette invitation qui s'accomplira de manière réelle dans les temps de la fin, quand nous rencontrerons Christ, nous serons invités à un festin messianique. Venez. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Est-ce que nous sommes véritablement nourris par ce que nous achetons dans ce monde ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Combien d'efforts accomplissons-nous pour satisfaire des besoins qui se renouvellent, qui sont toujours là au plus profond de notre être, de notre cœur ? Combien de force consacrons-nous, de temps consacrons-nous pour ce qui ne rassasie pas ? Il suffit de voir quand quelqu'un, et c'est mon cas en ce moment, au travail, a une rupture du réseau Internet. Oh là là là, c'est la fin du monde, hein ? C'est la fin du monde. Alors au travail, c'est nécessaire. Mais quand ça arrive à la maison, c'est encore pire. Vous vous rendez compte ? Quand on n'a plus Internet pendant 2 heures, comment on va vivre ? Quand le logement de vacances que j'ai loué, tout à coup je découvre qu'il n'y a pas Internet, comment je vais faire une semaine de vacances sans réseau Internet ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Et on s'aperçoit que finalement, l'adversaire a rendu possible dans nos cœurs, dans nos âmes, l'idée que certaines choses sont plus indispensables que la relation avec mon Dieu, que le temps que je passe avec lui, que le partage que je peux avoir avec ceux qui m'entourent du Seigneur. Combien est-ce que je passe de temps avec mes enfants ou petits-enfants à leur parler de la nécessité de Dieu ? Ou à rendre visible cette nécessité par ma manière d'être, de parler, de vivre. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi écouter, et votre âme vivra, dit Dieu dans Ésaïe 55. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Jésus fait référence 3 fois au festin messianique. Dans l'évangile de Matthieu, d'abord, au chapitre 8, verset 11, où il dit « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Waouh ! Ça, c'est des invités. Et on sera à table avec eux. C'est une réalité. Seront rassemblés ensemble. Ceux qui ont été des héros de la foi dans la parole de Dieu, mais aussi dans l'histoire de l'Église et dans l'Église de Kevin. Christiane, tu seras assis à côté de qui ? Pose-toi la question. C'est vrai, à Cœur du Dos, on a un principe, c'est que les patientes, comme c'est le temps de repas est un temps de soins à part entière, ce n'est pas les patientes qui choisissent leur place. C'est un membre de l'équipe qui, de manière aléatoire, distribue les 25-30 petits chevalets avec le nom. Et on se retrouve avec, je dirais, n'importe quelle personne, n'importe quelle patiente qui se trouve là. Bon, de temps en temps, il y a des patientes qui discrètement rentrent dans la salle de restauration, prennent leur chevalet et hop, elles vont le poser à côté d'une copine. Mais le principe, c'est ça. Là, Jésus dit... Vous serez à table, plusieurs qui viendront de l'Orient seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Vous voulez qui à côté de vous ? Quelle est cette réalité dans votre foi, dans votre cœur ? Je suis appelé à siéger à la table des noces de l'agneau et j'aurai Noé à côté de moi, Ça tombe bien, je voulais parler de canoë et de bateau. Un spécialiste. Qui d'autre ? Ah, il y en a certains qui me feraient envie, moi, dans l'écriture. Hein ? Élie ? Moïse ? Disant, écoute, c'était pas simple hein, ce que tu as écrit. Hein. Ce que tu as... C'était la loi quand même, c'était pas simple. On pourrait en parler 5 minutes ? 5 minutes, ça risque d'être un peu court. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous disons cette phrase dimanche après dimanche, mais nous sommes invités au festin du Fils, de l'agneau de Dieu. Vous, est-il écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 22, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Est-ce que nous allons ignorer l'invitation qui nous est faite ? Nous sommes invités à participer au festin de l'agneau. Jésus annonce très clairement au travers de 3 paraboles que pour pouvoir être admis au repas messianique, il faut accomplir certaines ou remplir certaines conditions. La première, c'est accepter de le mettre à la première place. On le voit dans l'évangile de Luc au chapitre 14, la parabole du grand souper, c'est accepter qu'il soit notre priorité. La deuxième, c'est être digne. Le passage que nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu, être digne. Il y a 2 éléments dans cette parabole qui nous parlent de cette dignité. Ils n'ont pas été dignes. Finalement, en refusant mon invitation, et quand il y a dans cette parabole le récit d'un homme qui est là et qui n'a pas revêtu d'habit de noces, eh bien, il est mis dehors. Il n'est pas digne non plus, même s'il est là. Il a répondu à l'invitation, mais il n'est pas digne parce qu'il n'a pas les vêtements appropriés. Et puis ensuite, il faut être prêt, comme le dit la parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 15, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et là, Jésus, en tout cas, Luc répète cette parabole. Un homme donna un grand souper, l'invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes heureux d'être invité ? C'est bien d'être invité, non ? Hein ? Dimanche dernier, j'avais des invités, dimanche midi. J'espère qu'ils étaient heureux de venir à la maison. Hein ? Sinon, s'il y a des invités à la triste figure, qui viennent parce qu'ils sont forcés, ou parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête en se disant « je vais en profiter pour demander ». Puis il y a celui qui invite. Quelle est son attitude ? Quels sont ses objectifs ? Il y a 25 ans à peu près, j'ai été invité en tant que directeur d'une autre structure à prendre le petit déjeuner avec le sous-préfet de Lorient. Je trouvais ça assez original. La lettre d'invitation, le carton d'invitation était assez général aussi dans les termes. Je dis, tiens, ça doit être les structures sociales, médico-sociales, l'organisation, un petit déjeuner, pourquoi pas. Et j'ai découvert la villa du sous-préfet au centre de Lorient, qui n'est pas du tout à la sous-préfecture, qui est du côté de Merville. Je ne vous donnerai pas l'adresse. Mais j'y suis allé, et puis maître d'hôtel, table avec nappe blanche, la vaisselle de la sous-préfecture et tout, puis un super petit déjeuner. Et en fait, j'ai découvert que le sous-préfet nous invitait parce que c'était le lancement des contrats aidés. Et que dans le département, il souhaitait que les associations mettent le paquet sur le développement, l'embauche des contrats aidés. Il avait une idée derrière la tête. Finalement, je suis ressorti de là. Ces idées, ces objectifs était peu en rapport avec mes besoins ou mes capacités. Celui qui invite peut avoir des idées personnelles. Ce qui nous rassure et qui nous fait du bien, c'est que l'invitation de Christ, c'est une invitation d'amour. J'aime dire ce texte de Luc, c'est avec une ardeur ardente que j'ai voulu partager ce repas avec vous, dit-il lors du dernier repas avec ses disciples. Une ardeur ardente. La motivation de Christ, c'est une motivation d'amour ardent. Qu'est-ce que j'ai voulu t'inviter ? Vous savez, quand quelqu'un vous invite et vous dit cela, vous dites « Waouh ! Il a pour moi une attention, un besoin personnel d'être en relation avec moi. » Est-ce que c'est cela que je perçois dans l'invitation de Christ qui s'accomplira dans la fin des temps ? Un jour, je donnerai un grand souper, le festin des noces de l'agneau, et tu y es invité. Es-tu heureux d'être invité ? Amen ! Moi, je suis heureux. Hey, c'est pas n'importe qui m'a invité. Hein ? Le repas de noces du Fils des rois. Est-ce que vous avez déjà invité ou refusé une invitation importante parce que vous aviez d'autres priorités ? Dans la parabole que Christ nous donne et qui est retranscrite par l'évangéliste Matthieu, il est dit que il envoya ses serviteurs pour appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Cette petite phrase, « ils n'ont pas voulu venir », ça signifie quoi ? Ça signifie que c'est une question de priorité. Ils n'ont pas voulu. Nous prenons tous des décisions où nous disons « voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux pas ». Dans le travail que nous faisons, où on élabore les concepts de la théorie du changement, mais aussi dans cette théorie du changement, comment nous faisons nos choix, il y a ce qu'on appelle la balance décisionnelle. Tous nos choix sont élaborés à partir d'une balance décisionnelle. J'ai telle chose qui m'est proposée, j'ai plutôt de l'intérêt à ne pas y répondre, et j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'inconvénients à y répondre, ou j'ai beaucoup d'intérêt à y répondre, et aussi des avantages à y répondre. Tous nos choix sont comme cela. On a parmi nous quelqu'un qui est passionné par le jardinage. La décision, c'est est-ce que je plante mes laitues maintenant ? Les seins de glace ne sont pas encore passés. Et puis, il fait froid le matin, la terre est gelée. Et puis, si j'ai tellement envie d'avoir de la salade très, très précoce, et puis ça serait un avantage d'en avoir sur la table rapidement, je vais aller planter mes salades. Et puis, on fait son choix. C'est vrai pour la plantation des salades. Ça l'est aussi quand Dieu nous adresse une invitation. Ce matin, il y a eu une parole qui s'est adressée à une personne. Balance décisionnelle, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je choisis ? Je réponds, je ne réponds pas ? Quelles sont les motivations qui vont me faire répondre à ceci ou à cela ? Quelle est la motivation qui prédomine ? Ils ne voulurent pas venir. Aucun autre commentaire n'est ajouté. Ils ont été invités, mais manifestement, la participation au repas messianique ne les intéresse pas. Ça a trop d'inconvénients par rapport à leurs priorités. Tout est une question de priorité. Si je passe plus de temps sur Internet que dans une relation de prière avec Dieu, c'est une question de priorité. Je fais un choix. J'aurais à assumer ce choix. Si je suis plus à l'extérieur de ma maison qu'à l'intérieur pour m'occuper de ma relation avec mon épouse, avec mes enfants, je fais un choix. Et j'assume les conséquences de ce choix. Tout est une question de priorité. Ils n'ont pas voulu. Ils ont choisi cette invitation du roi. N'est pas une priorité dans leur vie. Quelle est la priorité dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? De quelle manière l'autorité de ce roi, sa présence dans ma vie, a plus d'importance que le reste? Ils ne voulurent pas venir. La position de ces invités n'est pas qu'ils ne sont pas conscients ou en pleine connaissance de qui les invite, mais c'est l'autre priorité qui est présente. Il s'agit véritablement du plein exercice de ce que nous appelons cette liberté de choisir. C'est ce qui nous permet de hiérarchiser nos choix, nos priorités, d'exercer notre libre arbitre. Voilà ce que je veux. Ah. Quand on veut décliner une invitation, on dit souvent à l'autre personne « Ah, tu sais, j'ai pas le choix. Ah, c'était pas, j'avais pas le choix. Je suis désolé, je peux pas venir. » On a toujours le choix. Mais c'est que l'autre chose à faire est prioritaire. Alors, elle peut être réellement prioritaire. J'ai un rendez-vous médical, j'ai ceci, j'ai cela. Mais si nous examinons véritablement les raisons qui nous font prioriser autre chose que de répondre à Dieu, alors nous nous rendons compte que nous faisons valoir notre décision, notre choix, notre libre arbitre pour nous écarter ou ne pas lui laisser la totale seigneurie dans nos existences. La deuxième catégorie d'invités est différente. C'est pas « ils n'ont pas voulu venir », même si dans la première, moi je trouve remarquable, c'est que il envoya ses serviteurs, ils n'ont pas voulu venir. Il envoya encore d'autres, une autre invitation. Il dit, mais tout est prêt! Tout est prêt! Dieu est un Dieu de grâce. Souvent, des personnes disent, ah oui, mais si on est passé à côté, si je n'ai pas répondu à l'invitation, c'est terminé. Non, Dieu est un Dieu de grâce. Il fera avec ce que nous faisons, disons, vous rappelez Jonas, il a dit non à la première invitation, va à Ninive. Ben non, ah non, je ne suis pas d'accord, trop d'inconvénients, c'est un peuple qui te rejette, je suis en désaccord avec eux. Non, non, bon, ok, passage gros poisson. Ça dure quelque temps. Va à Ninive. Bon, ben d'accord. Parfois, on passe par la case gros poisson pendant quelque temps. Ça peut durer des jours, des semaines, parce qu'on dit non à Dieu. Dieu dit, bon, bah, assume. Ça peut durer des années aussi. On peut connaître des frères, des sœurs, des hommes ou des femmes qui ont dit bah, non à Dieu. Et pendant des années, ils sont restés à l'intérieur du poisson. Mais il y a toujours la possibilité de dire oui à Dieu. Je te renouvelle l'invitation. Après, il faudra faire avec ce que tu es ou là où tu en es quelques années plus tard, mais la grâce de Dieu est toujours présente. Moi, c'est vraiment, je dirais, la, j'ai envie de dire, le sens profond du Dieu que je connais et qui me fait annoncer sa parole. Dieu est un Dieu de grâce. Et il s'approchera de nous et nous invitera jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il ne se lassera pas jusqu'à ce qu'il soit sur la croix où il dise au brigand « Bon, on est arrivé à la dernière journée, mais je t'invite quand même. Ouais. » Au verset 5, il est dit que « Sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. » Là, on est dans le désintérêt. C'est pas « je veux pas », c'est « ça ne m'intéresse pas ah. ». Si on regarde le monde et l'invitation qui lui est lancée par Christ au travers de l'Église, combien disent « ça ne m'intéresse pas ». C'est quoi ton truc? Oh non. J'ai une dame avec laquelle je joue, je vous en parle souvent, sur mon téléphone portable, un jeu de quiz, Et puis, elle me pose toujours des questions sur la relation à Dieu, sur le mal, sur le pardon. Et puis, le dernier message, il y a 3-4 jours, c'était « Ouais, j'ai du mal quand même à y croire. Non, ça ne m'intéresse pas. Un Dieu de grâce qui pardonnerait le mal qui serait non pas la création de Dieu, mais une révolte et de l'adversaire et des hommes, c'est trop facile, ça ne m'intéresse pas. » Ne pas être intéressé. Et ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, alors que certains d'entre eux ont fait même preuve de violence. En tuant, ils se sont saisis des serviteurs et les ont outragés et les tuèrent. Et par ces mots, Jésus dénonce tous ceux qui, au travers de l'histoire, ont fait violence aux envoyés de Dieu qui ont transmis l'invitation à participer au repas messianique. Nous sommes invités. Ah non, ça ne m'intéresse pas. C'est trop facile, c'est trop simple, c'est trop ceci. Il y a tellement de choses qui captent notre attention, nos désirs, nos envies, pour nous écarter de l'intérêt du salut qui se trouve en Jésus-Christ. Ah, on a entendu plein de prédications sur ce sens-là. Ça n'empêche pas le monde de continuer à vouloir être indifférent à ce qui est au centre de la vie de l'homme, comment rétablir ma communion avec mon Dieu? Comment régler la question du péché? Comment être à nouveau juste au regard de Dieu? Cela, c'est au centre de la vie de l'homme. Comme dit le psaume, la vie de l'homme est comme la fleur des champs. Et un jour, il faut se retrouver devant son Créateur. Et là, nous devrons assumer nos choix, soit en tant qu'étrangers au royaume de Dieu, soit en tant qu'enfants de Dieu, mais qui n'auront pas dit les oui qu'il fallait dire à Dieu en son temps, dans nos vies. J'aime à rappeler que l'Église sera aussi jugée sur la manière dont elle a saisi les appels de Dieu. Les promesses de Dieu, nous aurons à rendre des comptes. C'est pas le Seigneur revient, on est enlevé. C'est l'espérance de tous les chrétiens. On se dit, si on pouvait pas éviter la case obsèques, ça serait pas mal. Ou alors après, le Seigneur nous ressuscitera. Puis là, hop, chouette, elle est où la salle du festin? Ah oui, mais alors il y aura quand même rencontre de ce que tu as reçu, de l'appel qui t'a été donné. Rends compte. Quelles auront été mes priorités? Ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son trafic, à ses affaires. Est-ce que parfois, dans notre comportement, nous sommes aussi, au jour le jour, préoccupés davantage des affaires de ce monde que des affaires de Dieu? Ils ont tué les envoyés. On est dans un texte violent. Ils ont tué les envoyés pour les faire taire. Mais j'ai envie de dire que est-ce que ce n'est pas aussi tuer les envoyés que de ne pas recevoir ce qu'ils sont, ce qu'ils portent comme message? Si un ambassadeur n'a pas plus de crédit que le simple mortel, le simple commun, ben, est-ce qu'on ne tue pas en lui son identité d'ambassadeur? Est-ce que les chrétiens que nous sommes ne sont pas tués, entre guillemets, si le monde ne reconnaît pas, n'accepte pas non plus l'identité que nous avons d'ambassadeur de Christ? Ils ont tué. Et puis il est dit que le Seigneur, le roi, a de colère envoyer son aimé, fit périr ses meurtriers et brûler leur ville. On ne peut pas penser à cela sans penser à la destruction de Jérusalem par Titus. C'est Flavius Joseph, au début du second siècle, qui raconte cette histoire où il était dit que les soldats mettaient le feu aux portes de du temple. L'argent en fondant livra bientôt passage à la flamme qui attaqua les boiseries, d'où elle s'élança avec violence pour gagner les portiques. Quand les Juifs virent le feu autour d'eux, leur âme et leur corps s'affaissèrent. Dans cet abattement, nul ne songea à se défendre ou à éteindre l'incendie. Ils restaient stupides et contemplaient ce spectacle. Découragés par leur perte, ils ne songeaient pourtant pas à sauver le reste, comme si déjà le temple était en feu. Ils exaltaient leur fureur contre les Romains. La flamme se répandit ce jour-là et la nuit suivante, car ce ne fut que par section et non d'un seul coup que les portiques en devinrent la proie. On se dit que lorsque Christ est mort, la destruction de Jérusalem est venue comme une suite un peu logique. Les temps étaient nouveaux. Le salut n'était plus là. Il était en Christ. Il est en Christ. Les choses anciennes sont passées. Je suppose, on a eu beaucoup d'émotions quand la cathédrale de Paris a brûlé. Je ne sais pas si c'était égal à l'émotion, à la tristesse, au sentiment de perte qu'ont pu éprouver les Juifs en voyant raser Jérusalem, ou en tout cas le temple. Il est dit que 2-3 jours après, c'est Flavius Joseph qui le dit, Titus a demandé que toutes les rues soient dégagées, que les décombres soient enlevés pour laisser le passage à l'armée. C'est-à-dire que l'armée s'est installée. Quel sentiment de perte. Et pourtant, est-ce que la mort de Christ, sa résurrection, n'ouvrait pas la porte à un temps nouveau, une nouvelle alliance? Il n'était pas digne, est-il dit dans le passage. La dignité, c'est quelque chose qui est quelque chose de profond dans ce passage, dans cette parabole. Il est dit qu'il y avait à la fois des invités qui n'étaient pas dignes, puisqu'ils n'ont pas tenu compte de l'invitation, parce qu'ils n'ont pas pris en compte qui les invitait. Est-ce que nous sommes dignes? Est-ce que nous avons cette dignité de savoir qui nous invite? Hein? Et puis, il y a cet homme qui, à la fin, qui est rentré dans la salle et qui n'a pas revêtu des habits de noces. Pour être dans la salle du festin, il faut être revêtu d'un habit nouveau. Ah! Un vêtement blanc, une harpe d'or. Quand j'étais jeune, je me disais, moi je me vois pas. Hein. Vêtement blanc, déjà, c'était l'époque où je portais des jeans pattes d'éléphant. Alors, un vêtement blanc. Puis alors, la harpe, je commençais la guitare, j'ai avec 6 cordes, c'est difficile. Et vu que ma femme s'est mise à la harpe, je me suis dit, moi je ne me vois pas à la harpe. Hein. Il y aura Odélia, Francine à la rigueur, à la harpe. Mais alors, moi à la harpe. Ce n'est pas cela. C'est est-ce que notre dignité, c'est le fait que nous sommes revêtus d'un vêtement de justice. Nous sommes revêtus de Christ. Il n'était pas digne. Cet homme, dans les repas de noces, j'avais lu ça il y a quelques années, il y a été de tradition aussi qu'il y ait des vêtements qui soient prêtés aux invités qui n'avaient pas le temps, qui rentraient des champs. On leur prêtait des vêtements et ils pouvaient rentrer avec des vêtements propres et dignes. Celui-ci était rentré sans s'être revêtu de ces vêtements qui étaient gratuits. Ah ! Alors, il est venu en se disant « Oh, pas la peine, hein, tel que je suis !» Ah ouais, mais le tel que je suis, ça fonctionne si je suis revêtu du vêtement des noces, de la justice de Dieu. Et c'est là qu'il est question de dignité. Est-ce que j'ai cette dignité qui m'est donnée par Christ pour me présenter dans la salle des noces de l'agneau? Je vais juste terminer ce temps de réflexion sur cette invitation qui nous est faite. Elle est faite de manière initiale pour tout homme et toute femme que Dieu appelle à rentrer dans sa présence. Nous sommes invités. Mais cette invitation, elle se répète tout au long de notre vie de chrétien, dans tous les choix devant lesquels Dieu nous place. Voici ce que j'attends de toi. Voici ce que je veux que tu abandonnes dans ta vie, que tu laisses. Je t'invite. Et Dieu est un Dieu d'invitation, pas de contrainte. Il n'est pas là en nous tirant par la main en disant « Je veux que tu prennes ce chemin-là ». Non, je t'invite à le prendre. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Je ne veux pas. Je suis libre. Je ne veux pas. Ou je veux, parce que je sais que le meilleur est en toi. Je n'ai pas le temps. Je suis indifférent. Oh, ton appel, Seigneur, c'est bien, c'est gentil. Puis le pasteur, il a beau répéter ça depuis un an, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans. Michel le fait aussi au travers de ses prédications. Les frères, dans les rencontres ou les sœurs que je rencontre autour des réunions de prière. C'est pas ma priorité. Il est urgent que ça le devienne. Il est urgent que cela devienne. Le monde attend, dit l'apôtre Paul, la révélation des fils de Dieu, d'hommes et de femmes qui considèrent que la priorité dans leur vie, c'est Christ. Est-ce que nous sommes attentifs à cette invitation ? Est-ce que nous sommes attentifs à l'appel que Dieu adresse, m'adresse ? Qu'est-ce que j'ai comme appel pour vivre et servir Dieu ? Peut-être qu'on en parle plus souvent aussi. Dieu nous a parlé ce matin. À quoi est-ce que je suis appelé ? Je suis invité à rentrer dans un appel personnel, pas celui de Michel, pas celui de Christine, pas celui de Marc, pas celui de Jean-Louis, etc. Mon appel, ma place. Quelle pierre vivante suis-je ? Comme lit l'épître de Pierre. Quelle pierre vivante suis-je dans l'Église ? Quelle est la place que je suis appelé à occuper ? Ouh là, c'est trop compliqué. Ou est-ce que ça me concerne seulement ? C'est une invitation. Dieu, là aussi, ne nous contraindra pas. Il nous appelle et il nous invite. Merci Seigneur pour ta parole qui est une invitation permanente à avancer pas après pas avec toi, à se laisser gagner par toi et à te donner, à te livrer nos oui pour entrer dans tes promesses et tes pensées. Nul ne sera responsable sinon moi des pas que je n'aurais pas faits. Nul ne sera responsable hormis moi des pas que j'aurais faits. Donne-moi d'être sérieux devant toi, Seigneur. De ne pas laisser de côté une invitation à entrer dans une autre dimension de vie, à aller plus loin avec toi, à me consacrer. C'est vrai, Seigneur, que tu attends de moi la consécration. Tu attends de nous cette consécration jour après jour. Par ton esprit, agis en moi et en nous, pour que mon oui soit là, présent, comme une parole et un acte de confiance en toi. Je te fais confiance. Et ton invitation est celle qui est la plus importante pour moi. Donne-nous de faire de toi notre priorité. Car je veux participer au festin des noces de l'agneau en ayant répondu oui à ton invitation. Amen.